18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Time Sport, comme chaque soir sur l'antenne de Beurre FM de 18h à 19h. On est ensemble toujours avec la fine équipe et les invités de Marc ce soir. Dans cette émission, on parlera de la Première Ligue avec Chelsea et son effectif légendaire. L'invité de ce soir aussi, un grand du Noblard, Saïd Benajem, ancien champion de boxe et fondateur de Boxing Beat du côté d'Aubervilliers. Au menu de cette émission, on aura de la Coupe de la Ligue avec Strasbourg qui sort l'Olympique Lyonnais. Un FC Barcelone versus PSG dans ce Time Sport ce soir. Et enfin, notre page Mercato Hivernal concernant cette Ligue 1 Conforama, la Ligue des Talents. N'oublie pas, comme chaque soir, le standard et son numéro 01 53 48 3000 et le hashtag Time Sport sur la Twittosphère. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et les consultants, ce soir, pour m'accompagner, on aura Alex Seban. Comment ça va, Alex ?
Ça va, Bilou, très chaud. Chaud bouillant, comme à Marseille, là, ce que je vois, les images de la télévision. Là, c'est là. Chaud, hein, devant les grilles de la commanderie, comme on disait avant.
Il vient chercher du pain au chocolat.
Le centre Robert, lui, de la FUS. Ouais. Bonsoir, Alex. Toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Mamadou Lamine Mané, il est de la partie ce soir. Il n'est pas du côté de la porte d'Auteuil.
Non, il n'y a rien à la porte d'Auteuil. C'est très calme. Enfin, je crois que c'est juste les passants. Salut, Bilal. Bonsoir à tout le monde. Je suis content de retrouver Alex aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu.
C'est vrai, Alex. Ça fait un petit moment qu'on s'est.
Ça fait un petit moment qu'on s'est pas croisé.
Sur le plateau, une petite dizaine de jours. Oh,
facile,
jours,
facile. Pendant les vacances de Noël. Tu m'as manqué.
Mais je sais bien. Ouais. Je suis très attachant comme garçon.
Eh ouais. On parlera de l'Espagne donc. Et il est avec nous ce soir. Ben l'instade, c'est Juan José Dorado. Comment ça va, Juan?
Buenas tardes.
Comment ça va? Bien.
Très bien. Je suis allé voir l'inauguration de la maison du handball.
Ah oui, super sympa.
C'était cet après-midi.
Oui. Et les champions. Eh oui.
Parce que c'est compliqué.
Ah, c'est compliqué. Chaud. Toujours chaud.
Il y avait des gens qui l'attendaient sur place. Ouais, ouais.
En tout cas, lui, il arrive toujours en retard. Je sais pas pourquoi, cher auditeur, notamment à toi. Un bonsoir pour Florian Bizet, notre réalisateur.
Bonsoir, comment
il
ça
habite
va
même pas un kilomètre, Flo, mais je sais pas comment il fait pour arriver en retard. C'est Claude Tollé. Voilà, on l'affiche d'entrée, d'emblée. Dans cette émission qui est Time
Sport.
Il fait beaucoup
de sport, toujours.
Ouais, il fait toujours de sport, mais on se demande pourquoi. Il est toujours en retard, ce gars. Comment ça va?
Je précise que je ne veux pas être là, on m'a appelé au dernier moment.
Ah, toujours au dernier moment. C'est
toujours une excuse.
Ah oui, c'est toujours une excuse.
C'est toujours une excuse.
C'est l'excuse de Coach Tollé. Allez, dans la joie et la bonne humeur, on prend le chemin de la Première Ligue.
Time Sport, le ras-le-bol.
Première Ligue, Chelsea, un effectif de 68 joueurs, Coach Tollé, dont 40 ans près. Waouh. Au sein de l'effectif gargantesque de Chelsea, pas moins de 40 joueurs sont actuellement prêtés. C'est beaucoup, Mamadou, autant d'éléments dont la suite de la carrière est incertaine du fait de la stratégie particulière des Blues. Avec une telle politique, justement, de recrutement, Chelsea ne se déstabilise-t-il pas plus que certains autres clubs de ce championnat anglais, Juan José?
Non, pas vraiment. Oh. Parce que, bah oui, attendez, il faut juste se rappeler, comme ça, années 90, Deportivo de la Corogne en Espagne, c'était sa politique, faire venir des dizaines et des dizaines de joueurs latino-américains qui étaient après prêtés parce que c'était du business. Alors, ce qui fait Chelsea aujourd'hui, à une moindre mesure, mais aussi quand même assez important, c'est la Juventus qui le fait aussi. Donc non, ils ne se déstabilisent pas parce qu'ils ne pensent pas tout simplement garder une soixantaine de joueurs. Ils ont besoin tout simplement d'éteindre ces tentacules partout, de faire venir des joueurs, de les prêter. Et je vous rappelle aussi, City, Manchester City a une politique très semblable.
Ouais.
Du côté espagnol, Giron est sur le... Sur les sphères d'influence de Manchester City, qui prend des joueurs qui ne vont jamais jouer en Angleterre et qui vont aller jouer en Espagne, en Italie ou ailleurs. Donc le système Chelsea aujourd'hui, qui est exagéré parce qu'on parle effectivement des 64-68 joueurs, ça peut paraître beaucoup, mais aujourd'hui il y a des clubs, Juventus, City, Deportivo de la Corogne par le passé, qui font à peu près exactement la même chose.
Quel est le sens d'une telle démarche, Alexandre Seban? On t'écoute.
Juan José nous dit que c'est du business,
ouais,
et je crois qu'il a raison, de toute façon. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Chelsea est en train de nous montrer le paroxysme du football, le business délirant. Voilà, des joueurs qui signent en Angleterre pour aller chercher une certaine forme de salaire, ils ne jouent pas. ils restent sur le banc, après ils sont peut-être un peu prêtés, après ils reviennent. C'est à quoi ça sert tout ça? Au final, le but d'un footballeur, quand il débute sa carrière, c'est de jouer. Le sport, c'est quoi? Quand on rêve de devenir footballeur ou sportif de haut niveau, c'est de jouer, c'est de pratiquer. À quoi ça sert d'être ballotté d'un club à l'autre? Un coup, on est sur le banc d'un club en Espagne, après on est sur le banc d'un autre club en Grèce, on est sur le banc d'un club au Portugal. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il faudrait que l'UEFA et la FIFA, peut-être, réglementent tout ça et interdisent. On a besoin de nouvelles règles, de re-réglementer le football après des années de grand n'importe quoi où tout le monde peut faire ce qu'il veut, apporte l'argent qu'il veut, peut acheter autant de joueurs qu'il veut. Ça sert à rien. Et ça empêche aussi certains clubs et certains championnats, plus globalement, eh bien, d'attirer et de faire jouer des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont besoin de jouer et de pratiquer leur métier.
Amadou, on t'écoute concernant Chelsea.
Moi, je m'oppose souvent clubs. Avec, enfin pas souvent, de temps en temps avec Alex, mais parce qu'en fait, Alex, c'est un chevalier blanc. Alex, c'est un romantique. Alex, il a une plume.
Je suis pas en train de.
C'est pas négatif. C'est pas négatif ce que je dis. C'est qu'en fait, Alex défend toujours une position très pure du football, c'est beau, mais il demande à l'UEFA de réagir et de régir ces règles. Mais c'est l'UEFA qui permet justement par son mode de fonctionnement, qui prône. Mais alors si tu veux un changement, il faudrait virer la moitié, voire le board de l'UEFA, en remettre un autre qui lui aurait cet esprit romantique, à savoir aplanir le foot. L'UEFA a laissé rentrer l'argent. Ça a commencé avec Lennart Johansson avant même que Platini arrive, prenne les commandes. Donc et alors à plus haut niveau, on sait que comment Blatter a transformé la FIFA où il y avait une machine à cash. Il y avait 3-4 secrétaires, il l'a transformé en la plus grosse machine à cash avec la NBA aujourd'hui ou la NFL en termes de business model. Aujourd'hui, le business model de l'UEFA, c'est de permettre aux clubs de faire de l'argent.
Mais tu cites les sports américains, là où justement les sports américains, eux proposent une structure, une gestion de carrière. On fait monter des jeunes d'abord en université pour bien les former aussi psychologiquement, mentalement. Bien les éduquer.
Ensuite, tous ne passent pas par la filière universitaire.
La grande majorité des joueurs NFL ou NBA sortent de la filière universitaire. Alors, sauf quelques exemples. Et évidemment, NBA, on le sait.
Tu sais qu'il y a des passes droits. Quand le joueur est exceptionnel,
on va fermer les yeux
sur son cursus.
Mais on parle de la majorité. On ne parle pas juste du phénomène.
Mais juste pour revenir.
Et derrière, ça permet justement d'avoir une structure.
Je vais juste finir sur l'histoire de Chelsea. Chelsea, il a imposé un modèle. Juan José nous l'a dit. La Juve le fait, Manchester City le fait, et tu verras que bientôt Paris Saint-Germain va le faire. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des clubs satellites, des clubs filiales. Alors même si c'est pas mis noir sur blanc, ils ont des clubs avec qui ils ont des accords où tu fais venir le joueur, tu le places dans ce club-là pour que c'est comme un incubateur, d'une certaine manière. Tu lui fais prendre de la valeur, il revient chez toi ou pas, mais ça va te permettre au moins de le vendre ailleurs. Donc en fait, c'est juste des pouponnières dans lesquels ils mettent ces joueurs-là, ils les mettent en incubateur, tout simplement. Alors ça paraît un peu trivial de parler comme ça parce qu'on parle de joueurs,
c'est triste.
On parle pas de poulet ou on parle pas de veau ou de vache, mais c'est exactement le principe pour leur faire prendre la valeur et les vendre après. Mais parce que c'est le système.
Mais on se dirige pas aussi vers des magouilles incroyables puisque les joueurs jouent dans un club appartiennent à un autre et dans tous les championnats ça peut être ça peut arriver.
Là faut pas être naïf. On fait du business, c'est du business à haut niveau.
On l'écoute.
Juste une petite chose, c'est que les joueurs participent de ce système. Il ne faut pas croire qu'ils sont là, personne ne
leur a rien. Oui, qu'ils sont victimes. Non, ils ne sont pas victimes.
Vous avez un joueur qui soit africain, qui soit latino-américain, qui vient d'un pays de l'Est, peut-être qu'il préfère signer à Chelsea, sachant qu'il ne va jamais jouer à Chelsea, mais qu'il va être prêté pour jouer au championnat français, espagnol, voire italien. Et ça l'intéresse.
Parce qu'ils sont dans le business, ils sont dans le game.
Peut-être que comme ça, j'aurai ma chance.
Ils
n'ont
pas le choix non plus.
Sachant qu'il n'ira jamais du côté de Chelsea.
Mais il sera estampillé comme joueur formé à Chelsea.
Et puis n'oubliez pas non plus que les instances internationales ont quand même réglementé à un moment donné, puisqu'à un moment donné, on pouvait inscrire 40 joueurs.
Bosman.
40 joueurs dans son club. Maintenant, vous avez 22 joueurs professionnels plus 3 si vous faites jouer des plus jeunes. Donc vous avez 25 joueurs dans une équipe professionnelle.
Et tu es tenu d'avoir un certain nombre de joueurs formés dans ton club.
Donc voilà, c'est des obligations qui sont là. Peut-être que faut-il aller un peu plus loin. Et encore une fois, les fonds d'investissement, à un moment donné, sur certains pays, c'est déjà interdit qu'il y ait des fonds d'investissement qui ont 30%. C'est le cas des Falcao à un moment donné. donné, où 30% ou 40% appartenaient à un fonds d'investissement.
Mascherano,
ça a été réglementé.
Mascherano, ça a été le cas aussi.
Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Mais attention, les joueurs ne sont pas non plus des victimes systématiquement. Et puis, il y a une réglementation qui a été déjà quand même faite depuis quelques années.
Le coach Chotelet, concernant cette première ligue, Chelsea, ses joueurs.
En tout cas, on est loin de l'effectif de Parme, qui avait 150 joueurs.
150,
il y a quelques années. Ouais, on parle du même cas de figure. Ils avaient 150 joueurs. Maintenant, moi, ils ont quasiment.
Ouais, là, c'était la NFL, quoi.
Mais je suis pas du tout.
C'était la NFL.
Enfin, c'est n'importe quoi.
C'est l'équipe du Super Bowl, quoi.
C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a le droit d'avoir autant de joueurs en France, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas une réglementation? Enfin. Ça part dans tous les sens. Je me suis amusé à regarder l'effectif de ces joueurs prêtés. Et là,
le football,
joueurs d'ailleurs,
des règles,
ça dans tous les sens.
Tout et n'importe quoi avec l'argent dans le football. Et voilà, on laisse faire. Et au lieu de régir,
réformer le mercato hivernal.
Tuer le football. Et en plus, réformer le mercato hivernal.
Alexandre.
Le football meurt de ça. On prend une équipe au mois d'août, on la change au mois de janvier. À quoi ça sert? C'est pas ça la compétition.
C'est les robots, c'est les marchandises. Les joueurs sont des marchandises.
Voilà, toi qui es entraîneur, Claude. Demain, tu entres dans un tournoi le 5 août et 3 jours plus tard, changes toute ton équipe.
Mais il a raison.
En finale, tu joues pas les mêmes.
Alex, il a déchiré.
Non, mais c'est débile.
Il a raison.
Il faudrait arrêter.
Ah, il a raison. 150 joueurs aussi.
Non, mais sur cette parenthèse transfert mercato hivernal, il a raison.
Il me lance là-dessus.
T'as des joueurs qui arrivent au mois d'août. Tu sais que t'as le mercato hivernal, tu sais déjà que tu es en train potentiellement de négocier. Il n'y a plus rien.
Voilà.
Il
n'y
a plus
rien. On fait de l'argent. C'est le
fond
de
ses.
On est conscient de ça.
Ouais.
Oui, forcément. Il ne faut pas non plus s'étonner de ce système. C'est paradoxal, effectivement, que Chelsea ait amené ce système si loin avec ses 68 joueurs dont on parle. Mais en même temps, ça vient du fait que maintenant, vous n'avez pas des socios dans les clubs. Les clubs appartiennent à des actionnaires.
Exactement.
Et les actionnaires font du business.
Ouais.
Et Chelsea est dans les mains d'un milliardaire comme Monaco, comme les d'autres clubs.
Exactement.
Donc, c'est comme ça. Et derrière tout ça, il faut faire de l'argent.
Alors,
si vous trouvez un grand joueur, tant mieux, vous l'avez,
c'est
à vous. Bah, sinon, ceux qui sont un peu moins bons, bah, vous les vendez ailleurs.
C'est leur but aussi, hein, d'un point de vue sportif, justement, c'est voilà, d'avoir la main mise sur.
Ouais.
En général, ce sont des jeunes joueurs, quand même, à très fort potentiel. T'as quelques scouts qui se baladent un peu à toute l'Europe. Qui
Yacine les cherchait
et puis,
encore. Hein.
Et puis voilà, s'il explose.
Yacine et Olivier les cherchaient hein, depuis hier. Est-ce le seul club à agir de la sorte, coach Tollet? On ne sait pas, en fait, ce qui nous attend avec ce nouveau format que vont emprunter les très grosses cylindrées afin de truster le marché de joueurs et donner naissance peut-être à cette fameuse Super League, messieurs, fermée, où les têtes d'affiche iront de club super riche à club milliardaire, quoi, je vais dire. Au lieu de riche.
On a cette polémique, on a toujours entendu parler de cette ligue fermée. Ah, c'est un peu le dragon qui fait peur à tout le monde, mais la ligue fermée, elle existe déjà aujourd'hui. Elle n'est pas officialisée, c'est marqué UEFA, mais elle existe déjà aujourd'hui. Les super joueurs vont dans les super clubs. Et ça se tourne comme ça. Les super coachs vont dans les mêmes clubs. Et cette ligue, en fait, aujourd'hui, elle n'a pas d'identité ou de réalité.
Elle s'appelle la Ligue des Champions.
Mais elle existe. Oui,
elle existe déjà. Où tu retrouves dans les 16 derniers toujours les mêmes grands clubs,
à peu près.
Tous les mêmes coachs.
Une ou deux années.
On est d'accord avec ça.
Les mêmes joueurs, les mêmes coachs. Regarde, tu vois Ancelotti ces derniers temps, il a tourné entre trois clubs. Il a fait Chelsea, il a fait le Real, il a fait le Bayern. Il ne manque plus qu'à faire City. Il a fait le PSG. Enfin bref, il est en train de tourner dans un même.
Mais ça c'est normal qu'un grand entraîneur, un grand joueur tourne dans un grand club.
Mais tu verras,
la ligue fermée, elle existe quasiment déjà.
Elle est fermée. Dans la manière dont elle fonctionne, et les joueurs se promènent déjà, les super joueurs se promènent dans ces 4, 5, 6, 7 clubs. Donc cette ligue fermée, on en a peur. Mais on a peur de quelque chose qu'on vit déjà aujourd'hui, sauf que le truc, c'est qu'on
on
a
vit
pas donné
pas exactement
un nom.
La ligue fermée, Mamadou. La ligue fermée, ça veut dire on joue un championnat d'août jusqu'au mois de mai avec tous les grands. Façon
oui,
NBA,
oui,
bah,
oui,
ça
c'est
n'existe
comme
pas encore.
Un système de franchise, mais parce que c'est pas officialisé, parce que je pense que c'est de l'hypocrisie. Quand je dis ça, c'est hypocrite de dire qu'elle n'existe pas, alors que
non,
dans
parce
les
que
faits,
l'UEFA n'arrive pas pour l'instant à contrecarrer les plans des grands clubs. Je suis pas totalement.
Non. Oui, non,
ils y arrivent
arrive,
un
elle
peu,
arrive, elle arrive,
d'une certaine
le
manière.
Le G14, on parle de cette ligue fermée depuis 20 ans.
Oui.
On en parle déjà depuis 20 ans.
On était commencé avec une espèce de J8.
Bien sûr, mais Paris, c'est pas
merci.
Derrière, après, on a mis le PSG, on a mis Lille derrière.
Paris ne s'est pas fait en un jour. On va y venir.
On se retrouve de suite après la pause avec notre invité de marque, Saïd Benajem. A de suite, chers auditeurs, chers auditeurs de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, comme chaque soir, 18h-19h, avec notre réalisateur phare, Florian Bizet, et les consultants. Je le rappelle, autour de la table pour m'accompagner durant une heure, Juan José Dorado, Alexandre Seban, sans oublier le coach Toulé, Claudio Canedia. Aïe, 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 comment il était très fort.
Ketchup, ouais.
Et aussi Mamadou Lamine Mané. N'oubliez pas le 01 53 48 3000. Aubert ce soir nous écoute à fond. Petit clin d'œil à Zizek Benklebla. Et aussi un amoureux du cinéma et du football, c'est Mason. On prend le chemin de notre invité Saïd Benajem.
Time Sport.
Ancien champion de boxe et fondateur de Boxing Bits à Aubervilliers. Saïd, bonsoir. Comment ça va?
Bonsoir, ça va, merci. Super, ça va très très bien.
Alors, on va commencer cette interview avec une première question. Saïd, pouvez-vous nous retracer brièvement votre parcours, tellement que tu veux? Hein, je tiens à le mentionner.
En fait, moi, j'ai commencé la boxe un peu sur le tard, donc à 17 ans, 18 ans. J'ai vite grimpé les échelons. J'ai été pris en équipe de France en 88 au bataillon de Joinville. Je suis rentré en équipe de France ensuite élite en 89. J'ai participé à de grandes compétitions internationales, championnats du monde, d'Europe et autres. J'ai fait les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Et puis après, je suis passé professionnel après les Jeux Olympiques de 92. Et j'ai été deux fois vice-champion d'Europe et deux fois champion de France. Et puis en même temps, je m'occupais de développer le club que mon entraîneur m'a laissé quand il est décédé. Et aujourd'hui, on fait partie d'un des meilleurs clubs de France.
Moi, quand j'entends 92, ça me fait rappeler de fameux souvenirs. Vraiment, des Jeux Olympiques d'été assez... incroyable quoi. Ouais, et à vous entendre dire que voilà, vous avez fait les Barcelone 92, c'est, ça doit être assez émouvant déjà pour vous et aussi pour votre famille, les personnes qui vous connaissent quoi.
Bah, c'est tout simplement le plus beau souvenir de ma carrière parce que les Jeux Olympiques, même si j'ai pas fait de médaille, c'est un
moment. Fait d'y participer, c'est ça déjà.
Exactement, c'est un moment qu'on peut pas oublier parce que quand en plus c'était avec les meilleurs athlètes américains, les meilleurs athlètes français.
C'est ça.
On avait le bâtiment qui était côte à côte, on se retrouve dans le village olympique avec des.
Et les textes à Dream Team, lui. Voilà, lui, il peut le dire. Il peut le dire.
J'ai écouté comme ça. Good, moi, ouais. Je voulais la
92, lui, ça veut dire normal.
Jordan, Barclay,
Magic Johnson. C'est bon, on peut s'en aller, les gars.
Moi, je suis dans mon salon trop petit. En noir et blanc, toujours.
On a tous vu tous les grands champions. Et puis quand tu te retrouves dans le village olympique, et là, c'est le monde entier qui est là. C'est le monde entier qui est là. Tu entends des langues que tu n'as jamais entendues de ta vie, des costumes que tu n'as jamais vus de ta vie. Il y avait une cuisine.
Des meufs que tu n'as jamais vues aussi.
Des meufs que tu n'as jamais vues de ta vie. des plats. Pour chaque pays, il y avait des plats, des restaurants.
Ouais, c'est spécifique, quoi.
Spécifique pour leur pays. Et moi, je suis resté comme un enfant. Enfin, je regardais les Jeux Olympiques comme un enfant, quoi. C'était vraiment un super souvenir. Puis après, j'ai toujours souhaité que les athlètes que j'ai entraînés jusque maintenant puissent y participer. J'ai eu la chance d'avoir Johnny Bumba qui a participé en Chine, oui, en 2008.
Oui, c'est Pékin. Ouais.
Pékin en 2008.
C'est ça.
Et puis Sarah Oramoun qui fait médaille d'argent.
Oramoun, de Rio, on connaît si bien.
Dernièrement. Et donc, c'est ma plus grande fierté, quoi. C'est vraiment
une fierté. En tout cas, merci de la partager. On la partage avec vous ce soir sur l'antenne de Beurre FM 053 48 3000. On le rappelle, notre invité de marque ce soir, l'ancien champion de boxe et fondateur de Boxing Beat, c'est pas Nassim Bourras, non, c'est Saïd Benajem. Et on a une réaction, Saïd, avec Alex. On t'écoute, Alex.
Comment aimerais-tu développer un peu plus ton sport aujourd'hui en France? Comment tu sens que les choses se remettent un peu dans leur contexte? J'ai l'impression en France actuellement avec la boxe, on sent une certaine effervescence. Est-ce que toi tu la sens et comment tu pourrais l'accompagner encore plus pour redonner au noble art ses lettres de noblesse du coup?
C'est vrai.
Ben, je pense qu'on a besoin d'être un peu mieux structuré. On a besoin que les différents comités régionaux travaillent ensemble, qu'on fasse de la détection, qu'on aille dans les quartiers, qu'on fasse des journées portes ouvertes pour les jeunes. Et parce qu'on est en retard sur pas mal de choses. On est resté dans un système où chaque club travaille un peu tout seul. Et moi, je prône plutôt pour le travail ensemble parce que les boxeurs ont besoin des autres pour pouvoir progresser. Les entraîneurs aussi, même si je suis entraîneur breveté à deuxième degré depuis quelques années, j'ai besoin d'apprendre aussi à travers les autres entraîneurs. Et on a besoin de regrouper les boxeurs beaucoup plus souvent et puis un peu plus d'aide aussi d'État, des moyens financiers parce que c'est le modèle économique de la boxe, c'est pas un modèle économique comme le football. On parlait de football tout à l'heure.
Beaucoup plus de facilité.
Voilà, le football, ils ont des problèmes de riches, nous, on a des problèmes de pauvres et on a une fédération qui essaie de faire un petit peu des championnats, mais c'est pas suffisant pour pouvoir développer. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire.
Pour attirer plus de licenciés et justement apporter peut-être une manne financière supplémentaire à votre fédération, est-ce que le message à passer ne serait pas de dire à toute cette jeunesse qui aujourd'hui s'intéresse, on va dire, au MMA, beaucoup pensent que le MMA en soi est un sport, en réalité c'est un composé de sport le MMA. Est-ce que justement demander à attirer les jeunes, leur dire voilà, venez d'abord pratiquer la boxe, apprenez des bases et notamment toute la philosophie aussi qui est importante pour ensuite aller vers le MMA si ça vous intéresse vraiment.
Et pour ça, il faut faire un gros travail de communication et puis aller dans les écoles. Moi, je sais que j'ai introduit la boxe dans les écoles primaires en 1990. Aujourd'hui,
félicitations.
On a une quinzaine de classes qui pratiquent la boxe éducative dans les écoles primaires à Aubervilliers. Donc, l'avantage, c'est que derrière, quand il passe en sixième, il vient s'inscrire directement au club.
Ouais.
Et on a besoin d'aller chercher et puis de publiciter un petit peu le travail qui est fait pour la boxe.
À la télévision, vous sentez que voilà, il y a de plus en plus de choses qui sont faites autour de la boxe.
Ouais, quand même, Alex, tu peux pas le négliger, ça. On a beaucoup de programmes.
Je pose la question, justement. Est-ce qu'il le sent, lui, comme ça?
Il y a eu un trou pendant quelques années quand les frères Michel Acarès et Louis Acarès ont arrêté les organisations.
Canal Plus aussi avait désengagé.
Aujourd'hui, ça reprend depuis quelques années. Notamment, Malamine Koné a fait beaucoup de bien à la boxe anglaise, le patron de la marque Ernest. Derrière, on a le promoteur maintenant de. Comment ça s'appelle Tony Yoka, on a d'autres promoteurs aussi qui sont vus, on a Canal Plus qui diffuse des réunions, Bein Sport, RMC Sport, et donc de plus en plus les gens s'intéressent à la boxe. Et la nouveauté maintenant depuis quelques années, c'est que une personne lambda maintenant, beaucoup de femmes et beaucoup de gens un petit peu bobos arrivent, vont à la boxe. Et donc les gens à l'époque connaissaient la boxe mais connaissaient pas les boxeurs. Et en faisant connaissance aux boxeurs et puis la façon dont on leur apprenait à boxer, bah, ça attirait plus de monde. Et maintenant il va falloir trouver un nouveau modèle économique. On a une nouveauté depuis cette année, on a Arnaud Romera qui est un ancien journaliste de France Télévisions, qui est président de la Ligue professionnelle, qui vient avec un nouveau projet, avec des nouveaux partenaires. Je fais partie de ces ligues professionnelles pour essayer de la développer. Et donc, c'est bien que ce soit quelqu'un qui ne vient pas de la boxe, qui soit président de la Ligue, parce qu'il a une vie extérieure. Et il va nous aider à développer aussi cette pratique professionnelle qui remonte doucement.
Réaction avec Claude Tollé. Justement, concernant notre invité de ce soir, c'est Benajem.
Tu entraînes des boxeurs, des boxeuses. Quelle est la différence en termes de gestion entre les hommes et les femmes dans cette discipline?
Ça n'a rien à voir. Avec les femmes, t'as mal à la tête. Je vais te faire tirer les oreilles. Mais c'est complètement différent. C'est deux sports différents. Le management n'est pas le même. Les filles ont besoin de beaucoup plus d'attention. Elles ont besoin de qu'on soit souvent derrière, qu'on ait confiance en elles. Mais une fois que la confiance est installée entre un entraîneur et une boxeuse, on va très loin. Moi, ça a été le cas avec Sarah Ramon, avec Lucie Berthaud, avec Maëlie Nicard, qui a été championne d'Europe, Lucie Berthaud, championne d'Europe. Et pour moi, c'est vraiment deux pratiques complètement différentes sur lesquelles on joue beaucoup sur l'affectif, sur la relation presque père et fille. Et c'est une discipline, en tout cas, qui est dans laquelle je m'éclate parce que j'ai fait du développement de la boxe féminine une priorité.
Alors, Mamadou, on l'écoute. Réaction de Mamadou.
Très bien, parce que c'est un parallèle par rapport à la question que je vais te poser. Tu as parlé un peu de boboisation d'un nouveau public qui vient vers la boxe. Nous, on le voit, on l'entend. Et est-ce que tu le prends de la même manière? Est-ce qu'ils viennent chez toi? Est-ce que c'est la même. Ils ont les mêmes attentes? Est-ce que finalement, tu ne fais pas deux sport différent entre les boxeurs qui viennent pour la boxe et ceux qui y viennent aujourd'hui parce qu'il y a un petit effet de mode qui viennent effectivement chercher autre chose. Tu les gères de la même manière?
Alors on va pas gérer des personnes qui viennent faire de la boxe loisir, parce qu'on parle de boxe loisir, qui viennent pas pour faire la compétition, et les gens qui font la compétition, ceux qui font la compétition, on est beaucoup plus exigeants qu'eux, beaucoup plus derrière eux, alors que ceux qui viennent pour juste apprendre un sport de combat, ils viennent aussi pour se dépenser, pour se défouler, pour apprendre un sport de combat dans une totale sécurité. sécurité, parce qu'on ne leur fait pas faire des combats, mais plutôt des assauts où les coups ne sont pas forcément portés. Okay. Et aussi, c'est tout ce qui encadre la boxe, tout l'entraînement de la boxe, ça les intéresse. Et après, à nous, les entraîneurs, les coachs, à leur apporter la boxe de façon positive. C'est pas seulement un sport de brut, c'est un sport aussi où on peut s'épanouir, on peut se révéler, on peut aussi mieux, on apprend à mieux se connaître et à se dépasser. Et je pense que c'est des gens aujourd'hui qui viennent à la boxe, qui font pas de la compétition, ils viennent aussi pour ça, ils viennent aussi pour se dépasser et puis faire des choses qu'ils pensaient pas être capables de faire avant de venir dans une salle de boxe.
Et pour terminer, quelle est la particularité de votre salle, Saïd, le Boxing Bets à Aubervilliers, en banlieue parisienne?
Alors, la particularité de notre salle, c'est que déjà, j'ai beaucoup développé la boxe féminine, on a beaucoup de filles. Les meilleurs résultats qu'on a fait, c'est avec les filles. On fait aussi du soutien scolaire avec les jeunes de la boxe éducative. On propose avec des bénévoles, avec qui j'étais d'ailleurs cet après-midi, Stéphane, Corinne, Arthur et Adjiri. On leur fait faire du théâtre, on fait faire du soutien scolaire, des devoirs et des projets que les gamins peuvent nous proposer. Donc, tous les mercredis après-midi de 15h30 à 17h.
Oui.
On leur propose des projets extra-sportifs. Donc pour nous, c'est vachement important de ne pas se cantonner à faire que de la boxe. La boxe, c'est un moyen aussi pour nous de regrouper les jeunes dans un endroit qu'ils aiment bien, qui est la salle de boxe. On a une mezzanine qui est super bien aménagée où on peut les accueillir tous les jours. Ils peuvent venir faire le devoir à la salle de boxe. Et puis aussi, on a une super belle salle parce que avec des fresques partout qui fait penser un petit peu à l'américaine.
Ouais.
Et puis un état d'esprit. Les gens, il n'y a personne, comme diraient les jeunes, qui se la racontent dans notre club. Tout le monde est le bienvenu. Et puis tous les gens.
Le rôle aussi de la boxe, c'est ce qu'on peut retrouver dans le Noblat. Vraiment.
Pardon?
C'est ce que l'on peut retrouver. Exactement. Dans l'institution de la boxe, si je peux me permettre, Saïd. Voilà, c'est de venir avec comme on est, quoi.
Exactement.
Et sans trop en jouer.
Exactement.
Hein, c'est comme ça qu'on peut apercevoir lors de training ou nombre de petits combats.
Oui. C'est un sport tellement dur.
On peut pas venir.
L'entraînement est aussi difficile. Tu peux pas venir avec une mentalité comme ça pour se la raconter.
Non,
tu es tout de suite remis d'équerre avec ça. Les règles.
La mentalité des MMA boxeurs, c'est d'abord l'humilité.
L'humilité, on en a grave besoin.
Et réfléchissez où vous voulez aller. On fait un sport de combat qui transmet beaucoup de valeurs, beaucoup de choses positives pour pouvoir réussir. Mais si tu te la racontes, je vais te mettre devant quelqu'un qui va te boxer.
Ça peut faire du mal.
C'est déjà arrivé.
Ouais.
C'est déjà arrivé. Les mecs arrivent avec en roulant des mécaniques, mais après quand on le met sur le ring, c'est
ça leur fait du bien.
On l'aura bien compris. C'est Ben Najem. C'est pour ça que Coach Tollet se tient assez tranquillement et que même Mamadou Lamine, je le vois plus à son siège. Ouais, je le vois plus sur son siège. Ça fait rien. Ouais. Il travaille. Même nous, on travaille, Mamadou. Ça ne fait rien. Un grand merci à Saïd. Vous allez rester avec nous. L'émission va continuer. Justement, on va revenir avec la Coupe de la Ligue. Strasbourg a sorti l'Olympique Lyonnais hier. On y va.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, Strasbourg éjecte Lyon et file pour les demi-finales. Dans le dernier carré, battu en quart de la Coupe de la Ligue au Parc OL par Strasbourg 2-1, Lyon ne s'est plus qualifié pour une demi-finale de Coupe nationale depuis 2014. Est-ce grave, Juan Trossé? Comment juger l'inconstance lyonnaise? La Coupe de la Ligue étant un objectif affiché.
Alors, est-ce grave quand vous êtes en course pour être en trio des têtes à la fin de la saison en Ligue 1, quand vous êtes en Coupe de France encore,
toujours.
Quand vous êtes encore en Champions League, alors sortir de la Coupe de la Ligue, c'est pas en soi grave. Ce qui est grave, c'est
quoi ?
Ça peut, à quelques semaines de recevoir le Barça, ça peut être compliqué.
Ouais.
Parce que vous n'êtes
dans
pas
le mental,
dans les meilleures
de l'équipe.
Prédispositions.
Ouais.
Donc, dans l'absolu, c'est un accro, c'est dommage. Ils étaient sur 4 compétitions, ils sont encore sur 3, donc ils ont encore de la marge. Mais c'est ce qui est inquiétant, c'est surtout par rapport effectivement à la venue du Barça dans quelques semaines, au mois de février.
Comment juger l'inconstance lyonnaise, la Coupe de la Ligue étant justement cet objectif? Les joueurs ont-ils déjà la tête à Barcelone? Il est foot. On m'a dit qu'on m'a glissé qu'il était assez football, hein, à la tête à Barcelone pour les huitièmes de finale de cette Champions League édition 2018-2019. Saïd Ben Najem, on vous écoute. Comment l'expliquer?
On n'aborde pas un match de Coupe de la Ligue comme on peut aborder un match de Ligue des Champions. Peut-être que les footballeurs aussi à ce moment-là, ils ont plus, comme vous disiez tout à l'heure, leur tête déjà à Barcelone et donc il y a moins de motivation, moins d'engagement. Mais c'est des pièges aussi, parce que ce sont des matchs qui servent justement à préparer des grandes échéances comme celles qu'ils vont avoir avec le Barça.
Ouais.
Donc après, dans la tête d'un sportif, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais il faut qu'ils arrivent à se concentrer sur quatre compétitions. C'est pas toujours évident. Et c'est aussi pour ça que des fois, ils vont faire l'impasse sur une compétition, peut-être ou pas, mais ils seront moins motivés.
On termine avec toi, Todd.
C'est dommage pour Lyon parce que ils en faisaient une de leurs priorités. Tu sais déjà que la Ligue 1 est réservée au Paris Saint-Germain. Donc, si tu as envie de gagner un trophée, il te reste la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Et ce trophée-là te permet d'accéder en finale en quelques matchs. Donc, c'est dommage pour eux. Maintenant, c'est pas nouveau. Enfin, ça fait plusieurs mois, voire peut-être deux saisons qui sont irréguliers. Et puis bravo à Strasbourg aussi,
hein,
parce qu'il y a un gros travail de fait depuis
depuis National,
depuis leur remontée avec Thierry Loret, avec un groupe extrêmement solidaire, avec Marc Keller qui fait un gros travail aussi, directeur sportif du club. Donc chapeau aussi à eux, bravo à eux, même si voilà, ça a été dur, mais ils ont fait preuve de solidarité hier pour aller chercher cette qualification.
On reviendra de suite après la pause avec notre Barcelone, justement. Barcelone versus Paris Saint-Germain. Ah oui, les Lyonnais, on en a trop dit. Non, on reviendra. Allez, rapidement sur l'Olympique Lyonnais. Vous restez avec nous, le 0153483000, chers auditeurs et auditrices.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour dans l'émission Time Sport qui parle de l'omnisport, hein, pas que de football. On en a parlé du Noblard avec notre invité, on le rappelle, Saïd, hein, qui nous vient tout droit d'Aubervilliers. Saïd Benajem, ancien champion de boxe et fondateur, on le rappelle aussi, de Boxing Beats. Voilà, ça c'est fait. On en reviendra pour avoir toutes les informations concernant cette magnifique salle de sport, de boxe plus précisément. On a parlé de Lyon. On va se diriger du côté de l'Espagne, mais on reparlera notamment de l'Olympique Lyonnais et aussi de Strasbourg avec Mamadou rapidement et Alexandre.
Time Sport. Le duel.
Ouais, ça s'annonce, c'est du gros duel. C'est le FC Barcelone et Blaugrana qui sont ce soir contre le Paris Saint-Germain. Messi, Suarez versus Mbappé, le gamin de Bondy avec Neymar. Rivalité des deux duos insatiables. Mon premier, j'aimerais avoir un mot sur Strasbourg. Tu me parlais de Strasbourg en off.
Oui, Strasbourg.
Avant de revenir à ce Barcelone-PSG.
Très, très gros club, parce qu'on insiste sur la défaite lyonnaise, mais il faut insister sur la victoire strasbourgeoise, parce que mener quand même au Stade des Lumières une première fois, se faire égaliser et revenir derrière et finalement gagner. Certes, Lyon n'a peut-être pas joué à son niveau, mais il faut quand même pas oublier que Strasbourg et Thierry Loret font un excellent travail et n'ont pas perdu contre beaucoup de clubs de tête. Hein. Ils ont fait trembler le Paris Saint-Germain cette année, ils ont battu PSG l'année dernière, Marseille a mordu la poussière aussi, et il faut dire que Strasbourg est toujours présent contre les gros clubs, et c'est vraiment une équipe avec beaucoup de caractère.
Attends,
la Juve
tremble déjà à t'entendre pour la saison prochaine en Ligue des Champions, le Real aussi frémit là.
Et pourquoi
non,
pas
mais sérieusement, c'est un scandale.
Les stats, c'est un...
non,
les
bravo,
stats,
bravo
stats,
à Strasbourg.
Alex, stats.
Mais bravo à Strasbourg, non, tout le travail qui est fait à Strasbourg, que vous avez souligné et à juste titre. Je le remets pas du tout en question. Moi, je trouve que c'était scandaleux ce qu'a fait l'OL hier. C'est un scandale. C'est scandaleux.
Tu es
à domicile. Tu reprends l'année avec cette Coupe de la Ligue, certes, mais que tu dois t'imposer. Tu es chez toi, tu es devant ton public.
Je suis d'accord.
Première chose. Mm-hmm. Deuxième chose, quand on est en France, on sait très bien, quand on est Lyon, quand on est l'OM, quand on est les autres clubs de Ligue 1, que la Ligue 1, elle est dédiée, elle est vouée à la victoire du PSG en fin de saison. Tu peux plus gagner la Ligue 1 quasiment. Allez, sauf exploit. Tu peux plus la gagner. Tu peux pas gagner la Ligue des Champions. T'es trop petit. Même quand tu rencontres des clubs qui sont inférieurs à toi d'un point de vue du budget en Europe, tu te fais taper.
Ouais.
Donc tu peux pas gagner grand chose. Qu'est-ce que tu peux gagner en France finalement?
La Coupe de France.
La Coupe de la Ligue. Et la Coupe de France, il faut jouer à fond ces compétitions-là. Sauf que les clubs français, voilà, ils ont trop de trophées dans les vitrines. Lyon a été rassasié. On se souvient même plus de combien de trophées a gagné Lyon dans son histoire. C'est pas normal de perdre un match comme ça face à Strasbourg. T'es chez toi. On va peut-être nous dire oui, mais les joueurs. Et j'attaque personne autour de la table. Les joueurs avaient peut-être la tête au FC Barcelone, mais c'est dans un mois, les gars, le FC Barcelone. Mais arrêtez d'y penser, ils pensent même pas à vous, les gars. Hein. Demain, ils vont aller vanter, ils vont leur mettre une tannée, et il n'y aura pas de problème. Mais Lyon, c'est scandaleux de pas aller au bout des choses, de pas au moins aller tenter d'aller chercher une coupe, un trophée en fin de saison, sachant que tu peux rien gagner d'autre.
On l'a excité là, c'est pas bon.
Il ne regrette
pas. On l'a excité, en plus il connaît bien le FC Barcelone.
Si mais on prend pas la coupe moustache.
Barcelone versus Paris Saint-Germain. Merci Alexandre, à l'instar du duo Mbappé-Neymar, que vaut la comparaison à ce moment précis de la saison. Messieurs le duo Messi-Luis Suarez. Vamos, vamos. Juan José Dorado.
Qu'est-ce que ça vaut? Pour l'instant,
on te le
c'est
demande.
1-0 pour le Barça, puisque si vous regardez les deux duos d'attaque dans leur championnat respectif, avantage au Barça, parce que je crois que Messi et Suarez ont à tous deux 26. Marqué 26,
il me semble.
Et je crois ou 28,
28, 28,
28, 28 et 24 28. Pour le duo Mbappé Neymar. Donc avantage pour le Barça. Et puis il y a quand même une plus grosse complicité. Plus grande complicité entre Messi et Suarez depuis le premier moment, depuis que Suarez est arrivé du Camp Nou. C'est vrai que du côté français c'est la même chose, mais bon bah c'est juste leur deuxième
match ensemble. À voir dans le temps. Juan José, tu le sais très bien.
Oui, mais pour l'instant et aujourd'hui.
Pour le moment.
Je crois avantage au duo catalan, sachant effectivement que le plus dur reste à faire, c'est-à-dire ce mois de février et ce mois de mars avec les huitièmes de Champions League. C'est là où on va voir les clubs et les attaquants s'ils sont vraiment en forme, parce que c'est à ce moment-là que tout va se jouer. Hein.
Ouais.
On sait que les grosses écuries se préparent pour le mois de février, pour le mois de mars, pour être en forme à ce moment-là et être efficace
et
percutant.
Justement, les deux paires évoluent-elles dans le même registre? Alex, coach Tollet, les mêmes dispositions tactiques?
Déjà, c'est quatre profils différents pour commencer. Comparaison, t'as quand même un duo qui a énormément d'expérience, qui a tout gagné à l'échelle européenne. Et puis t'as l'un des meilleurs joueurs de tous les temps parmi les quatre. Donc forcément, là, pour moi, la balance penche du côté du Barça. Maintenant, après, t'as un potentiel extrêmement intéressant du côté du PSG, mais ça, on le verra dans le temps. Et ça commence dès Manchester. Pourquoi pas, c'est là qu'on les attend, c'est là qu'on aimerait voir Mbappé marquer le but de la qualif en
concernant Manchester.
Voilà, enfin c'est là maintenant, enfin voilà, t'as quand même un duo qui est relativement jeune face à un autre qui a quasi tout gagné et qui continue à être performant en plus, donc
ouais, les deux paires justement. Messi, Suarez, Saïd Benajem ou encore Mbappé, Neymar pour vous. La disposition, le jeu, comment l'entente sur le terrain.
Moi, je vais essayer d'être.
Les choix tactiques de l'entraîneur.
Objectif. Je suis un supporter parisien.
Bien sûr, et c'est normal. Vous habitez au Aubervilliers.
On a quatre grands joueurs. On a des joueurs qui ont un petit peu moins d'expérience du haut niveau, notamment avec Mbappé, mais qui est quand même un tueur, un super joueur. Et on a Messi, on a Suarez, qui ont gagné plusieurs fois de la Ligue des Champions et de grandes compétitions. Ma foi, allez, Paris.
Ouais, allez Paris pour Saïd Benajem, pourquoi pas. Vers lesquels des deux va votre préférence, Alexandre Seban? Et on aura aussi Mamadou Lamine Mané avant la dernière rubrique de cette émission.
Messi Suarez, avantage Messi Suarez. Ouais. Ce qui est logique en soi, comme on l'a dit, l'expérience.
Vous connaissez très bien Messi, Alex.
La complicité également entre les deux. On dirait des frères, l'Uruguayen et l'Argentin, là, c'est des faux frères en soi, puisque c'est la grande rivalité normalement entre les deux pays. Mais c'est deux frangins, Suarez et Messi, ils s'adorent, ils font tout, presque tout ensemble. Et sur le terrain, il faut quand même tirer notre chapeau à Luis Suarez, qui était vraiment dans le dur, on va dire dans le dur, tout simplement dans la difficulté depuis au moins deux saisons. Il avait du mal à mettre un pied devant l'autre. Et là, voilà, il redevient le pistolero qu'on avait l'habitude de voir, avec ses 12 buts hein, pour Luis Suarez en Liga, 16 pour Messi, et à deux, donc ça fait 28, seulement 4 pénaltys, 3 pour Suarez, 1 pour Messi. C'est pour remettre les choses dans leur contexte. Il y en a qui marquent beaucoup de pénaltys, d'autres moins. Eux, voilà, c'est dans le jeu que ça se passe. Et forcément, avantage à Suarez-Messi par rapport à Mbappé-Neymar. Parce que là où peut-être ça pêche un petit peu, c'est que quelque part, Mbappé-Neymar, eh bien, Neymar, il sent que le vent tourne un peu contre lui, quoi. Il sent que l'autre, le gamin, là, il est en train de lui voler la vedette, et ça, il aime pas. Et on a beau nous raconter qu'il s'adore en dehors des terrains, tout ce que vous voulez.
Le clash arrivera.
À un moment donné, la moutarde va lui monter au nez, et il va vouloir.
Elle est en train de monter,
peut-être. Aller jouer au Real Madrid, peut-être la saison
prochaine. Merci, Alex. Je vais donner la parole rapidement à Mamadou avant la dernière rubrique.
Je suis content qu'Alex. Il a su lever. Je voulais l'emmener dans le piège parce qu'on termine tout.
Mais j'attendais qu'il dise.
Très bien fait, très bien orchestré.
On a, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on termine toujours dans cette histoire de Neymar et de Mbappé sur une complicité qui est
factice. Le plus grand sourire
non,
de
non,
coach.
Elle, toujours, elle part toujours factice.
Je ne dis pas qu'elle est factice. Je dis seulement qu'elle se voit sur le terrain. Il y en a une.
Moi, je
son copain à l'extérieur.
Je
mais
pense que vraiment, ces deux joueurs-là, alors, je veux dire peut-être que je ne suis pas objectif. C'est fort possible. Mais sincèrement, je pense que ces deux joueurs-là se comprennent. Ils s'apprécient. Et on a mis ici, on a eu plusieurs débats où on disait attention Neymar va
mais partir. Neymar il adorait Suarez et Messi.
Je peux finir, je juste finir.
L'autre il va lui prendre le ballon.
Je t'ai laissé dérouler.
Allez, on va le laisser dérouler avant de terminer.
Mais là c'est le supporter qui parle.
Pas du tout.
Allez, parce que on t'écoute, maman.
Il faut me trouver les raisons pour lesquelles ces deux gens-là ne peuvent pas s'entendre. Messi, alors apparemment,
mais
Neymar.
Mais depuis le début de saison,
Neymar doit partir
que Neymar,
parce que
on a ras-le-bol d'entendre parler d'Mbappé.
Neymar doit partir parce qu'Mbappé lui prend trop de place. Mais alors, il faut me donner des exemples pour voir Neymar qui a ras-le-bol.
Ah, peut-être on les a avec Juan José.
Moi, je pense tout simplement. Ouais. Je vais aller au bout de ta question. Ces deux jours-là s'apprécient. Je ne donnerai pas de hiérarchie entre le duo, parce que le duo Messi-Suarez, ouais, c'est du très 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 lourd. Ils ont, on peut pas, mais ces deux joueurs vont devenir. Et je ne vois rien, moi, enfin, qui pourrait les séparer.
Alors, Juan José, on termine.
Supposé, Mbappé va les séparer.
On termine avec ça.
On parle de ces deux duos, et ces deux duos ont besoin toujours d'un troisième larron dans le truc. Alors, côté Barcelone, ça s'appelle Dembélé.
Oui, ça marche.
Côté parisien, ça s'appelle Cavani, et avec ouais. Neymar, ça va pas du tout. Donc, peut-être que le troisième larron dans cette histoire,
c'est lui,
qui va faire aussi la
d'ailleurs,
différence par rapport à ces deux duos.
Messi, Suarez, Dembélé risquent de battre le légendaire MSN. Messi, Suarez, Neymar, il y a quelques années, ils avaient marqué plus d'une centaine de buts à eux trois. Ils sont sur les bases, là.
Tu me sortiras toutes les stats que tu veux pour pouvoir descendre.
Moi, de toute façon,
j'ai pas
vu Mbappé Neymar à la chicha. Donc, pour le moment, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie complicité.
Pourquoi t'as vu Messi et Suarez à la chicha?
J'ai vu la chicha.
À Aubervilliers.
Allez, la dernière partie de cette émission, messieurs les consultants.
Time Sport, le mode pressing.
On en reparle encore. Le FC Barcelone annonce le transfert de Todibo du club toulousain, le TFC. C'est dans les tuyaux depuis quelques jours. C'est désormais officiel. Jean-Claire Todibo sera un joueur du FC Barcelone à compter du 1er juillet 2019. Oui, messieurs, en fin de contrat à l'issue de la saison. L'international de moins de 20 ans arrivera donc gratuitement. Eh oui, où sont les scouts, là? Hein? Gratuitement, où sont les scouts, là? Hein, en Catalogne, sur la pêche. Hein. Moi, je vais commencer à croire Olivier G et aussi Yacine Boilly.
Mais non, justement, ah, il disait l'inverse. Il disait, il n'y a pas un Français qui part à l'étranger, il n'y a pas de formation, machin. Mais bien sûr qu'elle est là, la française. Elle est là, elle est bonne.
Voilà, ça va, il suit.
Mais c'est parfait,
Alex. Merci, Alex. Merci. C'est parfait, Alex. Mais c'est parfait. Garde tes forces, on va enchaîner, là. Olivier Sadran, le président du TFC, n'a pas caché son amertume dans les colonnes de nos confrères de l'équipe, justement toujours présents dans la ville rose. Jean-Claire Todibo risque de vivre quand même quelques mois particuliers avant de rejoindre son prochain club. Que pensez-vous d'un tel aveu d'échec, d'une telle résignation de la part de Sadran? On t'écoute.
Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Ouais.
Il peut le retenir, le gosse?
Bien sûr.
À Marseille, on a retenu Flamini, tu vas nous le dire. On l'a retenu, Flamini, ou pas à l'époque?
Non, une faute de l'Olympique de Marseille à l'époque.
Je charrie un peu, ouais. Mais évidemment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? S'il arrive en fin de contrat, bah, il peut s'en aller. Le gamin, il va prendre sa prime à la signature comme beaucoup font. On l'a vu l'exemple récemment au PSG. Et puis on nous dit que le gosse, c'est le futur Varane, c'est le futur Beckenbauer.
On l'espère en tout cas, Alexandre.
On verra sur pièce. Moi, personnellement, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Je ne l'ai pas bien regardé cette année. Je lui souhaite de devenir un grand joueur. Si le Barça s'intéresse à lui, effectivement, ça doit être pas mal. Mais voilà, il faut le laisser grandir, ce gosse. Il ne faut pas lui prendre la tête. Hein.
On t'écoute, coach.
Ah, c'est un joueur qui est supervisé par les plus grands clubs depuis 2-3 ans. Maintenant, Alex, il jouait déjà très peu parce qu'en fait, le TFC lui a proposé un contrat. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Donc, on part du principe certainement qu'il y avait de toute façon les grandes sirènes européennes. Et le président est surtout frustré parce que voilà, c'est un jeune de chez lui qui a été formé et il va partir pour zéro centime. Hein. Mais bon, ouais. Maintenant, le Barça est quand même dans ses droits. Hein. Faut pas,
c'est du business,
pas se tromper. Hein.
Le Barça, n'est pas une machine à broyer des joueurs. Je vous dis ça parce que Todibo part à Barcelone. Je suis convaincu que derrière ça, on lui expliquait le projet. Vous savez que Piqué est sur le départ, Umtiti est souvent blessé. On a fait venir l'anglais des Séville. Donc, au Barça, on a l'habitude, effectivement, de proposer, pas uniquement deux saisons, on verra si ça marche ou pas, non. C'est de faire venir les joueurs et les amener loin, les garder très longtemps.
Avec Vermeulen, d'ailleurs, on l'a vu, on les a aidés, Vermeulen, à revenir.
Il y a le cas anglais qui est quand même assez intéressant. Donc, il va retrouver un environnement français. Puisque je vous rappelle, Abidal, ça vous dit quelque chose,
hein, du côté de Jean-Luc Abidal. Hein,
donc le projet qu'on lui a proposé certainement est beaucoup plus intéressant que celui qu'il avait devant lui du côté des Toulouse. Et puis n'oublions pas, tu l'as dit, Todibo, mais oui, mais il y a effectivement Varane. Varane, quand il est parti au Real Madrid, il n'a pas joué beaucoup au début. Il a été
qu'est-ce qu'il a pris dans la tête, Varane, à l'époque? Qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tête?
Il faut regarder aussi en Ligue 2, c'est différent.
Griezmann, on l'a pris gamin, mais on lui a proposé un projet et on l'a amené très loin. Et pour terminer, il y a eu le cas Benzema, il était un peu plus âgé.
Il avait déjà bourlingué.
Il s'est formé vraiment du côté. Donc Todibo, qu'il parte, c'est très bien, je crois qu'il a eu raison, c'est sérieux.
Saïd Benajem, qui nous vient tout droit d'Aubervilliers pour cette magnifique émission Boxing Beats. C'est la salle de boxe. On peut la retrouver sur Internet rapidement.
Alors, on a boxingbeats.com.
Ouais.
Et c'est au 41 rue Lécuyer à Aubervilliers, pas loin des 4 chemins, les fameux 4 chemins très connus sur,
très bien.
Sur la planète.
Donc voilà. Merci en tout cas. On balancera tout sur la page.
Merci à vous. Sport, tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.